Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur, nous sommes assemblés à cet endroit pour recevoir de toi un message, une parole qui va créer en nous, Seigneur, une espérance nouvelle, qui va nous donner de voir la vie comme tu la vois et d'agir comme tu aurais aimé qu'on agisse pour obtenir, Seigneur, ce que tu nous as réservé à l'avance, afin que ton nom soit glorifié. Je remets le cœur de mon frère, je remets le cœur de ma sœur, et je prie pour une révélation, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je décrète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce message éternel va faire du chemin dans la vie éternelle de quiconque l'écoute, bouleverser son système de pensée et changer l'environnement éternel dans lequel il se trouve. Merci parce que par ce message, la guérison s'opérera dans les cœurs. La restauration dans les vies, Seigneur, par ta puissance inégalée. Car tu es le Dieu suprême et le Dieu vivant. Il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Que ton nom soit célébré. À toi la gloire et l'honneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'onction particulière sur ma vie ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse 12, versets 1 à 3. Nous reprenons sur le test que nous avons utilisé la semaine passée. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À ce test, j'ajoute Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans une autre version, la Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Ou alors un peuple sans borne, un peuple sans limite. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Un peuple sans borne, un peuple qui n'a pas de limite. Un peuple qui fait n'importe quoi. Parce que quand il y a absence de vision, alors on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Le thème de mon message ce matin, c'est garde ce rêve en toi. Garde ce rêve en toi. Garde-le en toi. Dis à ton voisin, garde ce rêve que tu as en toi. Alléluia. La Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Vous voyez, j'ai constaté ceci autour de moi. En étudiant, en sondant la parole et en observant ce que Dieu a fait sous le soleil, que les hommes qui ont réussi sur la terre sont des hommes qui ont eu un rêve, des hommes qui ont eu une vision, qui ont eu quelque chose qui brûlait en eux, qu'ils avaient une forte conviction d'accomplir. Vous voyez, il est nécessaire que nous puissions avoir un rêve. Vous savez, il y a des gens qui rêvent. Ils rêvent accomplir des choses sur la terre. Ils rêvent faire de grandes choses, n'est-ce pas, dans leur génération. Mais le rêve qu'on a peut soit provenir de Dieu, ou alors, c'est-à-dire du troisième ciel, ou provenir du deuxième ciel, ou de Satan. Alors, on peut rêver. On peut rêver, par exemple, être celui qui aura la plus grande maison de pornographie. C'est un rêve qu'on peut avoir. Et vous savez, j'ai réalisé ceci. Le rêve a une telle force que quand on l'entretient, il finit par arriver. Il finit par se manifester. Les choses que tu entretiens en toi et que tu nourris en toi finissent par s'accomplir, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, parce que c'est un principe de Dieu. Alors, il faut faire très attention sur le type de rêve que nous avons, sur le type de rêve que nous entretenons. Le rêve que tu devras garder en toi est le rêve que Dieu a mis en toi et non rien d'autre. Vous voyez, vous savez, vous interrogez une fille de 2 ans qui peut vous dire, mon rêve, c'est de devenir une grande prostituée. Vous savez, on peut rêver. Mais alors le rêve qu'on a, il vient d'où? Qui nous donne ce rêve? Il faut veiller, ok, à ce que le rêve que nous avons puisse venir de Dieu. Que ce soit Dieu qui soit l'auteur du rêve que j'ai en moi. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Qui a parlé à Abraham? Qui a parlé à Abraham? L'éternel Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père. Et je rappelle, comme je l'ai dit précédemment, que Abraham était fils d'adorateur d'idoles. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui pouvait prédestiner Abraham à avoir un rêve qui vient de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Donc, mais Dieu, dans sa prédestination, dans sa façon d'avoir planifié les choses, a arrêté par pure grâce qu'Abraham soit la personne qu'il ait choisie pour que Abraham portât le rêve que le ciel avait pour lui en cette période donnée. Je crois que personne sur la terre n'a été créé par hasard. Je pense au fond de moi que chaque être qui voit le jour, qu'il ait connu son père ou pas, qu'il ait connu sa mère ou pas, cette personne qui est née, que ce soit dans une famille riche ou une famille pauvre, est née pour un but précis que le ciel a pour cette personne. Et réussir sa vie consiste donc à pouvoir identifier le but pour lequel Dieu m'a suscité. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Vous savez qu'Abraham est appelé par nous les chrétiens et dans la Bible, le père de la foi. Et dans son exemple, est un exemple que chacun d'entre nous devrait davantage étudier. Car Dieu, quand il parle lui-même de lui, il dit souvent, je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Donc, il est important de voir comment il a marché avec eux. Est-ce que ça va? Mais je voudrais aussi vous dire que quand vous regardez dans toute la Bible, les grands hommes qui ont porté les grands rêves que Dieu a déposés en eux, qui ont fait de l'impact, que Dieu a utilisé, donc qui ont été des personnes qui ont été vraiment des porte-flambeaux de la gloire de l'Éternel, ces personnes-là ont eu tous quelque chose en commun. Ces personnes ont entendu une voix. Ces personnes ont eu un rêve. Dieu, la Bible dit, de Noé, après la chute d'Adam, la Bible dit dans Hébreux 11, verset 4, que Noé fut divinement averti pour construire l'arche. Est-ce que ça va? Alors, qui a parlé à Noé? Qui a parlé à Noé? C'est Dieu qui a parlé à Noé. Noé a entendu la voix. Cette voix venait où? Elle venait d'en haut. C'était une voix de Dieu qui venait d'en haut. Ok? Divinement averti. Vous allez voir dans la Bible, prenons l'exemple de Moïse. Moïse redevenu grand, refusa d'être appelé la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Car il avait les yeux fixés où? Ok? Il regardait comme voyant l'invisible. Donc il a entendu une voix qui le menait quelque part. Au fond de lui, il y avait un rêve que Moïse avait. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi bien. Seul le rêve va produire en toi la capacité surnaturelle qui t'amènera à l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Quand il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de puissance. Quand il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'onction. Beaucoup de personnes vivent sans la puissance d'en haut parce qu'elles n'ont pas un rêve que Dieu leur a donné. Et vous voyez, cet accord, quand Dieu te parle, la parole que tu entends de Dieu devra habiter ton cœur. Elle devra être le but pour lequel tu vis, le matin, à midi et le soir. C'est cette parole que Dieu a placée dans ton cœur qui va créer en toi ce que j'appelle la vision pour ta destinée, que tu devras avoir. Vous savez, il y a des gens qui ont en eux des visions tellement petites, tellement restreintes, qu'elles ne deviendront jamais rien.
Pourquoi?
Parce que tu finis par devenir ce que tu as accepté au fond de toi que tu seras. Il n'y a rien d'autre, aucune autre prière ne pourra changer ce fait. Si en toi, quelque chose n'a pas changé. Et vous voyez, souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas le droit de rêver grand parce qu'ils sont nés d'une famille pauvre. Les gens n'ont pas le droit de penser grand parce que leur père n'est pas grand. Non, non, écoute-moi bien, il faut que ton rêve ne suive pas celui que ton père a eu. Il faut que ton rêve aille au-delà de ce que les autres ont fait avant toi. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous montrer dans cet enseignement que même la position dans un endroit dit défavorable n'est qu'une faveur de l'Éternel sur ta vie. Vous allez comprendre au travers de cet enseignement que ce n'est pas par hasard que le Jésus lui-même est né dans une étable, qu'il était important pour lui de naître dans cette condition parce qu'elle était favorable pour l'incubation de ce rêve dans son homme intérieur. En ce qui me concerne, je suis de ceux qui ont décidé de voir au-delà de ce que je peux faire, de penser au-delà de ce que quelqu'un d'autre à côté de moi a pensé. Parce que je crois que si je devais venir sur la terre pour faire exactement ce que quelqu'un d'autre a fait avant moi, il n'y a pas eu de raison que Dieu me suscitât. Si Dieu m'a suscité, c'est qu'il y a quelque chose d'unique que je devrais faire dans ma génération et que personne d'autre n'a fait avant moi. Donc, suis-moi bien, écoute-moi bien, je n'attends pas que tu attestes ou que tu approuves le rêve que j'ai, mais je me contente de te le dire, parce que je sais qu'en moi, c'est Dieu qui l'a mis. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a parlé à Abraham. Vous pensez qu'Abraham, quand il a dit à son père, Dieu m'a dit de quitter ta maison et de partir, vous pensez que le père d'Abraham était d'accord? Vous pensez que le père d'Abraham était d'accord de voir Abraham abandonner l'idolâtrie? Non. Mais il fallait qu'Abraham ait une conviction profonde qui est née d'une voix d'un être que ses yeux n'ont pas vu. Et c'est ça la force. Savoir faire confiance à la voix de Dieu, même si tes yeux ne le voient pas. Porter à l'intérieur de toi ce que Dieu t'a dit comme un véritable rêve. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. La raison pour laquelle vous voyez les gens se lever le matin et tourner en rond, aller s'asseoir à gauche, à droite, murmurer, mal parler, calomnier et faire toutes ces choses, c'est parce que les personnes n'ont pas de rêve dans le cœur. Quand tu as un rêve dans ton cœur, 24 heures n'est plus assez pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Alors à des moments, tu as bien envie de demander à Dieu d'augmenter le nombre d'heures par jour. Parce que chaque minute qui passe est précieuse. Car tu as un objectif à atteindre. S'il y a une chose que tu ne peux jamais rattraper, c'est le temps qui est passé. Alors un homme qui en rêve, il sait maximiser le temps que Dieu lui donne. Est-ce que vous me comprenez? Donc suivez-moi bien, il faut avoir un rêve, il faut avoir une vision que Dieu place dans ton cœur. Parce que la vision, c'est la représentation mentale de ton état futur. La vision, c'est la représentation mentale de ton état futur. Comment est-ce que je me vois dans 20 ans? Comment est-ce que je me vois dans 25 ans? Comment est-ce que je me vois dans 30 ans? Comment est-ce que je me vois dans 40 ans? Tu dois avoir une représentation mentale de ce que tu seras. Il y a des gens qui vivent sans représentation mentale de ce qu'ils seront demain. Ils vivent au jour le jour, sans aucune programmation, sans aucun calendrier, sans aucun plan, qu'ils ont arrêté eux-mêmes en ce qui concerne leur futur. Et ils sont surpris que rien n'arrive. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris avec Dieu. Rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Écoute-moi bien, hein. Si tu ne fais rien, rien n'arrive. Il n'y a pas de sorcellerie. Ok, est-ce que vous me comprenez? Rien n'arrive. Le seul endroit où j'ai vu où on a cultivé la paresse, c'est à l'église. C'est dommage. On a cultivé la paresse, c'est à l'église. Et on a laissé croire que si on t'impose les mains, quelque chose va se faire. Laisse-moi te dire que l'imposition des mains va soutenir ce que tu fais. Mais si tu ne fais rien, rien ne se fait. Est-ce que ça va? Et vous voyez, on nous a amené à avoir des rêves trop petits. Hier soir, pendant que je priais, Dieu m'a dit, fils, dis à mon église que si le rêve que l'église a ne traverse pas les quatre murs dans lesquels il se trouve, il rêve mal. Parce que ton rêve doit aller au-delà de cette église. Ton rêve doit dépasser ces quatre murs qu'on voit. Il doit aller au-delà. Il faut rêver nation. Il faut rêver influence de la planète, influence de tout ton pays. Il faut rêver grand. Il ne faut pas se limiter dans un petit coin et attendre simplement que les gens dans les quatre murs font de toi un héros. Non! Il faut penser plus grand que ça. Il faut aller au-delà. Parce que je vais te dire quelque chose. Vous pouvez avoir le même potentiel, mais ne pas avoir la même destinée. Pourquoi? Tout dépend du rêve que vous avez. Est-ce que ça va? J'ai vu des tailleurs, des excellents tailleurs, mourir pauvres avec le talent qu'ils avaient. Parce qu'ils n'ont pas rêvé plus grand que leur petite boutique qu'ils ont mis à Abobo. Est-ce que vous me comprenez? J'ai vu des gens avec un talent qui sont morts sans jamais en jouir. Pourquoi? Parce qu'ils ont caché leur talent quelque part dans un petit coin. Non. Ce que Dieu a déposé en toi, il faut voir grand. Il faut aller au-delà de là où tu te trouves. Et te dire que toi aussi, Dieu va t'utiliser pour laisser quelque chose à ta génération. Et que tes descendants parleront de toi. Et qu'on mettra ta faute sur les murs pour dire, voici ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a accompli. Vous savez? Tu perds ton balayeur et puis rêver grand dans le balayage et devenir l'homme le plus important, même dans ton secteur, et voyager de pays en pays pour donner la conférence sur le balayage. Tout dépend de comment est-ce que tu vois le potentiel que Dieu a investi en toi. Tu peux frire la loco et puis devenir international avec ta manière de faire. Est-ce que ça va? Tout dépend du rêve que tu as. Vous voyez les gens, ils accomplissent des choses, c'est comme s'ils sont en train de faire une corvée. C'est parce qu'ils ne rêvent pas. Il faut avoir un rêve à l'intérieur qui motive tes actions. Quand tu as un rêve, tu ne dors pas à la même heure que tout le monde. Tu ne dors pas à la même heure. Les gens vont au lit à 22h, tu vas au lit à minuit. Et tu ne te lèves pas à la même heure que tout le monde. Pendant que les gens se réveillent à 7h, tu es debout à 4h. Parce que quelque chose brûle en toi. Quelque chose bouge en toi. Il y a quelque chose que tu veux voir. Et on prie que tu dois payer pour atteindre ce rêve. Oh, Rombo, Dorobo, Saraba, Rababa. Oh, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Écoute-moi bien. Il y a des moments où tu dois fermer ta bouche et te mettre dans le coin de ta chambre pour dire à Dieu, mets quelque chose en moi. Dépose une sémence. Ma vie n'a pas de sens. Je vais rêver à quelque chose. Je dois être utile. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres ou aller à l'église acclamer quand on prêche. Je suis venu sur la terre parce que Dieu en prend pour moi, parce qu'il m'a conçu dans le ventre de ma mère. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui font de vous leurs rêves. Ils rêvent t'avoir dans leur église pour prendre vos offrandes. Ils rêvent t'avoir assis et barricadé dans les quatre murs pour faire de toi sa proie ou alors son objet qu'il manipule et qu'il... Écoute-moi bien. Tu ne peux pas permettre à ta destinée d'être autant obscurcie entre les mains d'un farceur. Tu n'as plus d'existence. Tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie parce que quelqu'un joue avec ta vie. Comme si tu étais venu sur la terre être l'objet de quelqu'un. Tu n'as pas un Dieu comme lui? Est-ce qu'il a trois yeux? Est-ce qu'il a trois pieds? S'il avait trois pieds, il serait un monstre. Et le monstre ne doit pas te faire peur. Écoute-moi bien, tu es comme lui. Est-ce que ça va? Il y a des gens qui ont peur de leur boss comme si... Non, il faut avoir du respect, mais pas de la peur. Parce que toi aussi, Dieu a un plan pour toi. Est-ce que ça va? Il a un plan pour toi. Il y a des femmes qui vont, n'est-ce pas, subir des abus pour avoir juste un marché ou alors avoir juste une faveur. Comme si celui qui te la donne était celui qui était capable de gérer ta respiration. C'est inacceptable. Si tu en rêves, tu dois croire que Dieu est avec toi. Il faut avoir un rêve. Vous savez, quand tu as le rêve, il y a une autre chose que tu dois apprendre à faire. Tu dois apprendre à payer le prix
pour atteindre l'objectif que le rêve te fixe. Parce que sans prix à payer, il n'y a pas de gloire. La Bible dit dans 2 Timothée que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles avec lesquelles nous devons combattre. Vous voyez, regardez, ces hommes sportifs, avant les Jeux Olympiques, ils prennent 4 ans. Ceux qui font les 100 mètres, 4 ans d'entraînement intensif, régime alimentaire. Discipline. Ils ne dorment pas n'importe quelle heure. Ils ne boivent pas n'importe quoi. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne vont pas n'importe où pour une compétition qui va durer 10 secondes. Est-ce que vous me comprenez? 10 secondes. Et vous voyez, souvent j'aime bien aller voir comment travaillent les directeurs de société, des banques, des entreprises, avec tous les documents qu'ils ont. Et souvent on dit, oh homme de Dieu, vous êtes très occupé. On a fait croire qu'on est trop occupé. Mais il y a des gens qui travaillent plus que des hommes de Dieu. Que certains hommes de Dieu. Si le message consiste à te lever le matin, à prendre ta Bible et à prêcher dimanche, alors tu n'es pas appelé de Dieu. Parce qu'on va au-delà de ce message. Il y a quelque chose d'autre. Des gens qui se lèvent à 4 heures, qui vont au travail, qui gèrent des entreprises, qui pensent à la destinée des autres familles qui sont tout autour. Ils rentrent les derniers chez eux et ils sont juste là en train de travailler pour un monde séculaire. À plus forte raison. Ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui servent les intérêts du royaume, devraient être à même de payer le prix. Nous sommes trop paresseux. Trop paresseux. Parce qu'il n'y a pas de rêve. Comment est-ce que tu peux imaginer en ce instant que tu vas finir ta vie au poste où tu es actuellement? Même si tu es directeur d'une société, ce n'est pas la tienne. Tu peux aller plus loin que ça. Tu peux créer la tienne. Tu ne vas pas penser que ta vie va se limiter à là où tu es. Il faut voir plus grand que ça. Nous voyons trop petit. Et vous savez, quand je me mets dans ma chambre à prier, et ou dans mon bureau, je me mets devant le trône de Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi de voir plus grand que ce que je ne vois aujourd'hui. Parce que je refuse de croire que je sois venu sur la terre accompagner les autres. Il faut un impact planétaire. Il faut aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Il faut donner une image que les gens n'ont pas encore vue. Il faut qu'un Dieu que les gens ne connaissent pas bien encore se révèle par la puissance du message et la démonstration de la force. C'est pour ça que mon rêve, c'est que toi qui es là aujourd'hui avec un capital de 10 000, que demain, tu puisses dire, 10 ans plus tard, j'ai le milliard pour capital. Parti de là où tu es. Voilà mon rêve. Je rêve de voir ton mari qui te maltraite, qui te bat, arrêter de te violenter. Voilà mon rêve. Et à cause de ça, je dors tard. Je me tiens devant Dieu, je cherche l'alimentation nécessaire pour toi. Je rêve de t'amener là où Dieu veut que tu sois. Que tu puisses connaître le bonheur. Parce que mon cœur est serré quand je vois des gens qui souffrent et qui croupissent sur le joug de l'oppression satanique. Aucun homme sur terre ne mérite de souffrir. Dieu n'a pas pensé un seul instant qu'on soit sous cette souffrance. Et même si elle arrive, elle ne doit pas rester éternellement. Il faut qu'elle passe. Ce n'est pas normal que cette souffrance s'attache à toi 10 ans durant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis d'accord qu'il faille payer le prix. Il faut payer le prix. Aujourd'hui, je vois des gens qui se lèvent. Oh, tout ce qu'ils regardent, c'est ce que le succès présente comme face. Mais derrière le succès, il y a le prix qu'on a payé. Vous savez, il y a un prix à payer. Je vois des gens aujourd'hui. Oh, révérend. Oh, je vais être comme toi. Oh, je vais conduire la même voiture. Homme, frère, il y a un chemin. Il y a un chemin, je vous dis la vérité. Il y a un chemin qu'il faut emprunter. Le chemin du sacrifice et de la renonciation. C'est un chemin douloureux. Un chemin où souvent le mépris même est attaché à ta personne. Mais à cause de la confiance que tu as en la voix que tu as entendue, tu continues d'avancer. Laisse-moi te dire que si tu passes cette épreuve, la Bible dit lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, Dieu sera avec toi. Il est nécessaire que dans la marche de l'accomplissement de ce rêve, que tu fasses un tour en enfer. Détenu par les puissances occultes et par la puissance du malin. Mais laisse-moi te dire que le diable peut t'arrêter en enfer, mais il ne va jamais contenir ton rêve en enfer. Il ne va jamais l'arrêter en enfer. Parce que ton rêve ne peut pas rester en enfer. Quand Jésus allait à la croix, il ne rêvait pas l'enfer. Il rêvait la résurrection. Il rêvait le salut des âmes. C'est pour ça que dans la tombe, la mort n'a pas pu le tenir captif à cause de ce qu'il avait en lui. Il faut que tu gardes ce rêve en toi. Il faut que tu le gardes. Ce que Dieu t'a dit. Vous savez, souvent le rêve de Dieu, nous l'avons. Et nous attendons que les circonstances autour de nous attestent que le rêve est de Dieu. C'est faux. J'ai constaté ceci. Quand Dieu te donne un rêve, le premier adversaire que tu rencontres, c'est la personne qui est juste à côté de toi. C'est ta propre maison. C'est ton propre environnement. Dieu le fait exprès. Il le fait exprès. Parce qu'il n'attend pas que les gens de l'extérieur attestent que toi tu sois capable de faire. Vous savez, si je voulais m'en tenir à ce que les gens pensaient, je ne serais jamais là où je suis. Parce que les gens vont toujours avoir un rêve pour toi qui est inférieur à ce qu'eux ils ont rêvé eux-mêmes. Je reprends, je dis les gens vont toujours avoir pour toi un rêve qui est inférieur à ce qu'eux ils ont rêvé eux-mêmes. Il n'y a que les grands leaders qui vont t'amener à arriver plus grand que le rêve qu'ils ont eu. Et c'est pour ça que les gens sont découragés. Dès qu'ils parlent à quelqu'un, tout de suite on les décourage. On les décourage. Mais écoute-moi bien, il faut que tu saches que malgré le découragement, l'adversité, il faut tenir ferme dans le rêve que tu as. Vous savez, quand Dieu m'a parlé en ce qui concerne l'appel de Dieu, j'avais 24 ans. Il m'a parlé clairement sur mon lit. Clairement, j'ai entendu cette voix. Et Dieu m'a montré une vision. Des foules de personnes touchées, guéries, restaurées. Des paralytiques qui marchaient des chaises roulantes. Dieu m'a montré le rêve. Et vous savez, quand je me suis levé, ma première réaction, c'est que je suis allé au groupe chrétien auquel j'appartenais. J'ai dit, Dieu m'est apparu ce soir. Et Dieu m'a dit que je devrais prêcher. Et pour moi, je savais au fond de moi que comme il m'a montré le rêve, dès que j'imposerai les mains aux paralytiques, les paralytiques vont marcher. Je suis allé, j'ai vu les gens dans les roulettes. Et j'ai dit, les chaises roulantes, j'ai imposé les mains. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. La personne ne s'est pas levée. Lève-toi. Mais vous savez quoi? Quand je me suis rendu compte que ce que j'avais vu n'arrivait pas tout de suite, je ne me suis pas découragé. Et Dieu m'a dit, fils, je t'ai montré un rêve, c'est le but pour lequel tu devras vivre. Et vous savez, le rêve ne m'a pas amené dans un château. Le rêve m'a fait quitter mes parents très tôt. J'ai quitté mes parents très tôt. À 24 ans, j'ai abandonné la maison paternelle. Pour aller habiter dans une maison, une petite chambre, qui ne faisait même pas 5 mètres carrés. À peine même, je pouvais dormir dans la chambre. Tout était dans la chambre. Et quand je descendais de ma chambre, je devais traverser une rigole des excréments qui passait juste devant ma porte. Et je dormais là. Et vous savez quoi? Je dormais là, je prêchais la parole. Et j'annonçais le Dieu puissant qui m'est apparu. Quand je rentrais chez moi, Dieu me donnait la grâce de traverser ces odeurs et de dormir au milieu de cette odeur. J'ai eu l'adversité, ne pouvait pas m'encourager vers ce que Dieu m'avait montré. Mais j'ai appris une chose avec Dieu. Il ne faut jamais regarder à ce qui est apparent. Il ne faut jamais regarder à ce qui est autour. Car Dieu a la capacité de changer l'environnement dans lequel tu te trouves. Et j'ai répondu à cet appel. Et vous voyez, dès l'âge de 24 ans, j'ai dit, Dieu, tu m'as appelé. Je n'irai pas demander l'argent à mon père ou à ma mère ou à mes frères. Si tu m'as appelé, tu pourvoiras mes besoins. Je n'irai pas dire, je manque quelque chose, de peur qu'on ne se moque du Dieu qui m'a appelé. Vous devez avoir cette révélation de la grandeur de votre Dieu. Et accepter de traverser l'épreuve que Dieu vous fait traverser. Quand tu la traverses avec joie et avec révélation que Dieu te conduit quelque part, alors l'épreuve ne devient plus une épreuve. Et Dieu te donne la capacité de traverser dans le feu sans jamais sentir les flammes te brûler et de traverser les eaux sans te noyer. Mais quand tu es trop pressé, quand tu es trop pressé, alors la tempête t'emporte. Nous avons des gens qui sont trop pressés. Regardez l'histoire de Nelson Mandela, un homme qui en rêve pour sa nation. Il n'était pas dans une église en train de prier et puis non, il a eu un rêve. Et je crois que Dieu lui a donné ce rêve. On a proposé la libération de la prison pour qu'il se taise. Il a dit, je préfère mourir en prison que de changer d'idéologie. Je crois qu'il faille que l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, que les Noirs et les Blancs soient égaux. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut mettre ça dans le cœur d'un homme. Il est resté en prison, combien de plus de 27 ans de prison. Et il a été libéré plus tard. Et quand il est sorti de la prison, toutes les chaînes de télévision du monde entier étaient là pour voir cet homme. 29 ans de privation. Il est sorti grandi comme pas n'importe qui. Et même les chefs d'État demande pour de l'audience, pour le rencontrer, il est devenu un symbole pour sa génération. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de payer le prix pour un rêve qu'il avait. Quel est le rêve que tu as? Le rêve que tu as, c'est manger et boire. Le rêve que tu as, c'est conduire une voiture. Le rêve que tu as, c'est conduire une maison. Alors laisse-moi te dire, arrête de rêver. Laisse-moi rêver, je vais te donner ça. Écoute-moi bien, le rêve doit aller au-delà de ça. Au-delà d'une voiture, au-delà d'une maison, au-delà de l'offrande. Tu dois rêver plus grand que ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu dans ta génération? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec le Seigneur? Qu'est-ce qui habite en toi? Quel est le rêve que tu as? Vous savez, frère, je vais vous dire une chose, femme, sœur. Tout ce que Dieu fait grand, il le commence toujours petit. Dieu n'a jamais commencé les grandes choses grandes. Chaque chose que vous voyez naître grand va finir petit. Tout ce que vous voyez qui naît grand finit petit après. Regardez autour de vous. Des gens qui se sont levés sans aucun background, sans aucun cursus, ils ne durent pas longtemps. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Non, non, Dieu ne commence pas à te rendre célèbre. Non, non, et ce n'est même pas quand Dieu te rend célèbre, il a tué le désir de la célébrité en toi. Est-ce que vous me comprenez? Les gens qui veulent être célèbres ne vont qu'être... Écoutez-moi bien, ce n'est pas le but recherché. Regardez les hommes que Dieu utilise. En certains moments, ils fuient la foule. Ils se cachent. Ils n'ont même pas besoin d'honneur. Au fond de leur cœur, ne brûle que le rêve que Dieu a donné. Qu'est-ce que tu as en toi? Quel est le rêve que tu as? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux faire avec Dieu? Qu'est-ce que tu as comme rêve? Mais tu sais, la grandeur de ce qui t'arrive en fonction de la grandeur du rêve que tu as. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez, et quand Dieu t'a donné un rêve, l'environnement que tu as devient une opportunité favorable pour que le rêve se développe. C'est-à-dire, Dieu m'a donné un rêve. Et je vis à Yopougon, je suis à Port-Boué, ou aux deux plateaux, dans une petite maison, ou alors même dans une maison qui est inférieure à ce que Dieu, à ce que j'ai envie de voir. Parce que généralement, j'ai constaté une chose. Celui qui vit dans une pièce veut deux pièces. Celui qui est dans deux pièces méprise deux pièces pour trois pièces. Celui qui vit dans les trois pièces a besoin d'un château de cinq pièces. Celui qui vit dans cinq pièces a besoin de dix pièces. Et souvent, les gens vont tellement loin qu'il faut même 27 pièces. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils entendent un bruit, ils ont peur parce qu'ils se disent qu'un démon est dans une de ces chambres. Un frère, comment vous pouvez être quatre dans une maison où vous habitez une maison de 15 chambres? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chambre qui risque d'être habitée par quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce qu'un homme devra connaître sa maison. Un homme devra connaître sa maison. Un homme devra faire le tour de sa propriété. S'il y a une chambre que tu n'as pas vue depuis longtemps, il y a de fortes chances qu'il y a quelque chose qui habite dedans que tu ne connais pas. Est-ce que ça va? Donc il est important. Vous savez, souvent, on pense que le rêve dans la vie, c'est ces choses apparentes. Non, elles viendront, Dieu te les donnera. Mais je vais te dire, va au-delà de ce que ces choses apparentes sont. Parce qu'elles sont éphémères et passagères. J'étais en conversation avec Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Et je sondais la sagesse de Dieu et je voulais connaître sa science. Et quand j'ai vu dans les Écritures que même Salomon a dit, j'ai été riche, j'ai possédé les richesses, j'ai offert à mes yeux tout ce que mes yeux ont désiré. Mais à la fin, je me suis dit à moi-même, tout n'est que vanité. J'ai vu sur le soleil l'insensé être béni, j'ai vu le juste être maudit. Et je me suis dit, mais si ces choses se passaient comme ça sur le soleil, alors là encore, c'est une vanité. Et j'ai compris à la fin de toute chose que ce que l'homme tire bon de son travail, c'est ce qu'il réussit à en jouir lui-même. Et je vais aller plus loin. Parce que l'homme n'a pas deux bouches et l'homme n'a pas trois pieds ou l'homme n'a pas quatre nez. Tu ne peux pas porter deux chemises au même moment. Tu ne porteras pas deux chaussures au même moment. Tu n'en portes qu'une. Alors les 999 autres que tu as dans ta chambre ne sont qu'un problème que tu as. Parce que même avec trois ans, tu ne porteras pas toutes. Alors là encore est une vanité. L'homme n'a pas la capacité de conduire deux voitures au même moment. Même s'il en possède dix. Encore là, c'est une vanité. Alors nous considérons les choses que Dieu nous donne comme une opportunité qu'il met à notre disposition pour accomplir le rêve qu'il a placé en nous. La chose la plus précieuse n'est donc pas ce que je possède, mais c'est le rêve que Dieu m'a donné. C'est ce qui me ramène à Dieu dans l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Et vous voyez des gens, parce qu'ils ont ces choses, ils commencent à développer une attitude de mépris et d'orgueil. J'arrive là-dessus tout de suite. Mais je vais te dire, mon frère, moi dans ma vie, j'ai considéré l'environnement adversaire comme une opportunité pour moi. Mon père ne m'a pas laissé d'héritage. Et j'ai dit, je laisserai d'héritage à mes enfants. Mon père n'était pas riche. Et j'ai dit, ce n'est pas une raison pour que je sois pauvre. Mon père n'a pas servi Dieu avec passion comme je le fais. Mais j'ai dit, c'est pour ça que j'irai avec passion vers Dieu. Écoutez-moi bien. J'ai décidé de quitter la maison de mon père. Et d'aller vers quelque chose que Dieu m'a demandé de faire. Mais je n'ai pas quitté la maison de mon père du genre, Dieu m'a revisité, alors je m'en vais servir Dieu, j'abandonne la maison comme certains autres le font. Non, non. Quand Dieu m'a visité, la première attitude, je me levais le matin, je lavais les assiettes à la maison, je nettoyais les chaussures, j'ai repassé les habits de mon père et de ma mère, et je chantais les cantiques à tue-tête. Au départ, ils ont combattu, hey, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ta conversion, ça veut dire quoi? Nous aussi, on ne va pas à l'église. Mais quand ils ont commencé à voir ce que la parole de Dieu faisait en moi, ils ont demandé à aller voir exactement où je priais. Pourquoi? À cause du rêve que j'avais à l'intérieur de moi. Écoute-moi bien, si ton rêve ne t'a pas changé dans ta maison, tu n'as pas de rêve. J'ai dit, tu n'as pas de rêve. Le rêve, ce n'est pas à l'église ou dans la rue. C'est dans ta maison. Les gens de ta maison qui vivent avec toi doivent constater que tu as un rêve. Quand ils te regardent à certaines heures, ils disent, il est dans son rêve. Il est en train de faire ce à quoi Dieu l'a appelé. C'est pour ça que si vous voulez savoir qui est qui, demandez à qui dort avec lui. Je vous dis la vérité. Tout n'est que mensonge et apparence. Tout n'est que publicité mensongère. On n'est pas ce qu'on présente aux gens qu'on est à l'église. On est ce qu'on est dans sa maison. Quand l'église n'est plus là. Tu es véritablement ce que tu es quand tes patrons ne sont pas là. Toi-même tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu vaux. Même si on te chante des louanges, tu sais ce que tu as en toi. Donc, frère, au fond de moi, j'ai un rêve. Et je veux que tu en rêves. Il faut rêver. Il faut rêver, il faut rêver. Il faut penser à accomplir quelque chose. Donc l'environnement ne devra pas être un obstacle. Mais au contraire. Pourquoi est-ce que vous imaginez que tous les grands footballeurs, la majorité, ils sortent des quartiers pauvres? Pourquoi? Les grands boxeurs, les grands musiciens, pourquoi? Est-ce que vous vous posez des questions ou vous subissez ce que la société vous présente? Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel ils se trouvent devient favorable pour l'accomplissement de leurs rêves. C'est pour ça que généralement, ceux qui font un grand impact sont ceux qui partent de rien. Et Dieu, ayant compris le même principe, a fait partie Jésus de l'étable. C'est pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Il est né et juste à côté, il y avait des odeurs, des excréments d'animaux. C'était l'ambiance dans laquelle il est né. Et sa famille a dû fuir parce qu'elle était pourchassée. Il n'était pas né dans une condition grande. C'est pour ça qu'à 12 ans, quand ils étaient au temple, il s'est arrêté pour comprendre. Parce qu'il a dit, je ne comprends pas bien. Mon père, avec son petit travail qu'il a, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il a commencé à sonder les Écritures pour comprendre. Vous savez, il y a des choses, quand elles vous arrivent, elles vous poussent à vous rapprocher de Dieu pour comprendre. Elles vous ramènent vers Dieu. Quand tu n'arrives pas à manger, comme les autres enfants de ton âge, alors tu demandes, où est Dieu? Et Dieu te répond en disant, je t'ai mis à part dans une condition comme celle-là, parce que je veux faire de toi quelque chose de grand. Et il dit, je prends les choses faibles pour confondre les fortes. Et les choses viles pour confondre les sages. Donc si présentement, tu es considéré comme quelqu'un de vil, tu es bien placé là où il faut pour que Dieu t'utilise. Donc, écoutez mes frères, c'est important. Et j'ai constaté que chaque fois que tu as gardé ce rêve en toi, le ciel va orchestrer des événements qui vont amener au temps marqué ton rêve à accomplissement. Je parle, et vous savez, je crois terriblement aux connexions divines. J'ai rencontré des gens, Et ça a semblé un tronc hasard pour ceux qui ne voyaient pas comme moi. Mais alors, c'était un rendez-vous que Dieu avait préparé à l'avance. Chaque fois que je voyage et que je prends l'avion, je ne pars. Quand je m'en vais, je sais qu'il y a des gens que Dieu a postés pour moi, que je ne connais même pas. Mais le monde est orchestré. Tout se met en marche pour moi. C'est pour ça que ma première réaction, quand je descends de l'avion, la première chose, quand je touche le sol, la première réaction, c'est que je prends alliance avec le sol. Les premières phrases, c'est que Seigneur, que toutes les ressources de ce pays se mettent à ma disposition pour ce à quoi tu m'as appelé. Que ce soit les hommes comme l'argent qui se mettent à ma faveur pour que je puisse faire ce à quoi j'ai été appelé. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qu'on ne pouvait pas imaginer rencontrer, qui s'intéressent à toi, qui te regardent, qui viennent te dire, je veux avoir ton numéro de téléphone, je veux avoir ton adresse. Et après ils te disent, je suis le petit-fils de Hugo Chavez, je suis l'ami de tel président, je suis le petit frère d'un tel. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu demander ton adresse? Je crée une connexion divine. Vous savez, et au-delà de la connexion divine que Dieu crée, il faut avoir assez de sagesse pour savoir l'exploiter. C'est là où l'église pêche. Vous savez, avant, quand je vois quelqu'un qui vient dans mon bureau, je suis homme d'affaires, la première des choses, c'est que j'attends qu'il me fasse une offrande. Ça m'est arrivé moi aussi. Et quand il s'en va sans faire d'offrande, mon cœur est serré. Mais il aurait dû me faire une offrande. Jusqu'à ce que je comprenne que mon rêve était tellement grand que l'offrande des poches des fidèles ne pouvait pas le réaliser. Et que la provision, il fallait une seule poche pour la réaliser, c'était la poche de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et que je change d'attitude. Non, n'utilisez pas les gens que vous rencontrez tout de suite dans l'intention de les exploiter pour ton rêve. Laisse Dieu faire. Il crée la connexion, mais laisse Dieu faire. Ne falsifie pas les choses. Laisse Dieu faire par son esprit. Est-ce que ça va? Il faut laisser Dieu faire et t'interroger. Que pourquoi cette opportunité? Et vous savez, il y a des gens qui n'arrivent même pas à savoir que c'est l'opportunité. Quand David est allé affronter Goliath, il ne savait pas qu'il allait affronter Goliath. Il allait déposer à manger à ses frères. Son père l'a envoyé. Numéro un, s'il n'était pas obéissant, il ne partait pas. Donc souvent, les opportunités se cachent là où tu imagines le peu qu'il se trouve. Je me suis rendu compte que les gens que Dieu utilise même pour me bénir, à l'apparence, ne ressemble pas aux gens qui peuvent bénir. Et même, il ne se trouve même pas là où tu puisses imaginer. Comment vous imaginez que quelqu'un puisse remettre 50 millions de francs à un autre, à un aéroport, pour faire un chèque, pour dire, tiens, voilà pour ton œuvre, et après, paf, il continue. Vous pensez que ça se passe comment, ces choses-là? Alors, vous imaginez que ça se passe comment? Écoutez, est-ce que vous croyez que Dieu existe? Et qu'il soit capable de faire au-delà de ce que ta tête ne peut appréhender, de ce que ton intelligence ne peut imaginer. Non, Dieu peut aller au-delà de ton intelligence. Il va au-delà de tes calculs. David arrive avec la nourriture pour donner à ses frères. Son père envie à David un porteur de nourriture pour les frères. Dieu envie à David le roi d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Et même quand on a oué David, on n'a pas jugé utile de mettre David dans l'armée. Mais David a continué à être berger. Mais quand le temps de Dieu a sonné, David est venu, Goliath a défié Israël, pas pour défier Israël, mais pour donner l'opportunité à David d'être reconnu roi. C'était une opportunité de Dieu pour David. Vous savez, il y a des choses qui vous arrivent. Joseph était très à l'aise dans la maison de Potiphar. Jusqu'au jour où sa femme demande à coucher avec lui. Vous savez quoi? Souvent, nous nous contentons d'une partie du rêve que Dieu a manifesté. Mais le plus grand est derrière. Et nous ne continuons plus à appliquer les mêmes principes. Et on s'arrête là, dans cette maison-là, alors que Dieu veut nous amener plus loin. Joseph a reconnu une opportunité. Il s'est totalement mis en accord avec la parole. Il a refusé de le faire. Pourquoi? Il dit, cet homme m'a donné tout. Il y a des ingrats. L'homme lui a tout donné. Il dit, il m'a tout donné. Dans cette nation, il m'a établi sur ses biens. Non, quand même. Entre nous, c'est vrai, tu es belle, mais on ne fait pas des choses pareilles. Non, ça ne se fait pas. Ok? Non. La condition n'est pas, je ne ferai pas. Non, pour rien au monde. Il y a des gens qui ne savent pas être reconnaissants. Dès qu'on les place quelque part, ils torpillent ceux qui les ont mis là. Est-ce que vous comprenez? Et ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne montent pas. Non, tu ne peux pas monter avec le cœur pareil. Joseph est allé en prison. Et il a attendu en prison. Il savait que Dieu lui avait montré les gerbes qui se prosternaient autour de la sienne. Il n'avait pas oublié. Un jour, il dit, hey, allez demander, faites, allez parler de moi au roi. Mais le gars qui s'en va, il oublie. Joseph reste en prison. Au jour de l'opportunité de Dieu, personne n'est allé voir le roi. Dieu est allé voir le roi et il lui a donné un songe que personne d'autre ne pouvait interpréter. Et il a donné à Joseph l'interprétation du songe que le roi avait. Si vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Vous savez quoi? Il y a des gens qui ont attrapé le cancer à cause de moi. Il y a des gens qui ont attrapé le VIH à cause de moi. Pas parce qu'ils devaient avoir le VIH, mais parce que Dieu voulait qu'au travers de leur VIH... Oh my God, tu n'as pas compris de quoi je parle. Donc, au travers de leur cancer, Dieu voulait attester quelque chose, que j'étais son serviteur. Et c'est pour ça que le cancer est arrivé. Vous savez, au début aussi, j'avais ce problème. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, il vient dans mon ministère au début, ça il y a 10 ans de par le passé, la personne me dit, non, j'étais très riche, mon bateau vient de se noyer, je viens de perdre mon argent. J'ai dit, mais Dieu, il y a des gens qui ont de l'argent, mais pourquoi tu m'envoies seulement ceux qui ont perdu? Vous savez, au point où, à un certain moment, j'ai pensé que j'étais maudit. Les gens, j'écoute des témoignages, non, tel a donné 10 millions à tel, tel a fait 5 millions. Mais moi, les gens qui viennent, souvent le peu que j'ai, je dois partager avec eux pour qu'ils prennent le transport. Et je rentre et dis, Dieu, c'est pas normal. Jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est ce à quoi je t'ai appelé. Je t'ai appelé à la restauration des vies. Et je veux que tu puisses regarder à chaque personne qui vient comme une opportunité d'exercer la grâce que j'ai déposée en toi. Et commence à travailler pour la restauration. Et Dieu a changé mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai commencé à voir différemment. Quand je vois quelqu'un, je pense à son élévation. Je pense à sa grandeur. Je pense à sa bénédiction. Je pense à sa prospérité. Et j'ai appris une chose. Je peux travailler avec toi. Et demain, quelqu'un d'autre passe par là et il me laisse l'offrande. Il continue le chemin sans me connaître. Parce que les anges de Dieu existent toujours. Est-ce que ça va? Donc, il faut garder le rêve que tu as. Garde-le. Garde le rêve que tu as. Et ensuite, pour terminer, le succès viendra à toi. Il viendra certainement. Parce que tu auras été fidèle, tu réussiras. Mais quand le succès arrivera, écoute-moi bien, garde-toi toi-même. Ne tombe pas sur le coup de l'orgueil comme plusieurs qui se sont arrêtés au premier carrefour de la bénédiction. Non, il y a plus grand après. Dieu a dit à David, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, alors je t'ai utilisé pour délivrer ton peuple. Il ne faut jamais être grand à tes propres yeux. Il faut toujours devant le Seigneur reconnaître que tu n'es qu'un instrument. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi de façon grande et puissante. Vous savez, la pauvreté nous donne une humilité apparente. Je dis bien apparente. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance à un humble qui est pauvre. Parce que souvent, son humilité est dictée par sa condition. Est-ce que vous me comprenez? J'ai de l'expérience aujourd'hui. Je me suis rendu compte que le pauvre, même quand il ne t'aime pas, il te dit « je t'aime ». Parce qu'il attend en retour que tu donnes quelque chose dans sa main. C'est pour ça que les gens qui sont spécialisés dans les atalakous, ce sont des flatteurs. Est-ce que vous me comprenez? Et on ne fait l'atalakou, la louange, que de la personne qui a quelque chose. Parce qu'on veut avoir ce que la personne a. Ça, c'est pas de l'humilité. Maintenant, suivez-moi bien. J'ai constaté que, en fait, la richesse te donne l'apparence d'un homme orgueilleux. La richesse te donne l'apparence de l'orgueilleux. Parce que celui qui a, même dans sa démarche, il est différent. Vous voyez deux personnes qui arrivent. Le pauvre et le riche ne marchent pas de la même manière. Et ils ne parlent pas de la même façon. Et ils ne s'assoient même pas de la même façon. C'est pour ça qu'à la fin du mois, quand je regarde à l'église, les démarches sont différentes. Le salaire vient de tomber, les gens viennent de recevoir leur argent. Ils sont différents. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, un entrepreneur qui vient d'avoir un marché de 50 millions, mais même la voix au téléphone, il n'y a plus de vie dedans. Pourquoi? À cause de la nouvelle qui est arrivée. Est-ce que vous me comprenez? Mais, écoute-moi bien, il faut, quand la provision arrive, apprendre à garder une certaine humilité. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Garder l'humilité. Il faut garder l'humilité. Il faut apprendre à rester humble. À respecter ton prochain comme toi-même. À marcher dans l'amour. Il ne faut pas écraser les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que la vie, c'est une roue qui tourne. Elle tourne. Ah, elle tourne. J'ai été prié pour des gens qui était multimilliardaire il y a 15 ans dans ce pays qui n'ont plus rien, qui marchent à pied, qui n'ont plus un seul centime et qui vendaient leur maison. Alors j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que c'est la vie? Il m'a dit, elle tourne comme une roue. Alors, mon frère, il est plus difficile de rester humble quand Dieu t'a donné que quand tu n'avais rien. Regardez les gens qui se consacrent, qui prient des heures. Dieu bénis-moi. Vous savez, généralement, le pauvre prie plus que le riche. Je vous dis en vérité. Le pauvre, il prie plus que le riche. Regardez les nations où il y a eu la guerre. Il n'y a plus de gens qui prient. Regardez les nations prospères. Généralement, il y a moins de gens qui prient. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont pris la place de Dieu. Mais garde ton cœur, parce que Dieu va te visiter. J'ai demandé au Seigneur d'ouvrir les portes du ciel pour ta vie. Mais garde ton cœur, garde ce rêve, ce que tu avais en toi. Les gens qui m'ont dit, oh pasteur, je veux que Dieu me bénisse. Quand il me bénira, je vais acheter des voitures à tes pasteurs et à tous les assistants. Et puis souvent je pose la question, je dis, combien tu as de salaire aujourd'hui? Il dit, mes revenus c'est 3 millions. Combien tu donnes comme dîme? Même pas 100 000. Il dit, tu mens, ça ne peut pas être possible. Parce que souvent nous pensons que c'est quand nous aurons, quand nous serons grands, qu'on servira mieux Dieu. Mais plus tu as la richesse, mieux tu es exposé. J'ai un autre message que je prêcherai dans cette église, où je parle de la solitude des sommets. Quand Dieu t'a élevé, quand tu es au-dessus de la montagne tout seul, et quand tout le monde regarde et on te voit sur la montagne, quand personne ne connaît la température que tu as sur cette montagne, et quand on commence à jeter les cailloux quand tu es sur la montagne tout seul, alors qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Comment est-ce qu'il faut apprendre à descendre souvent du sommet de la montagne pour rester au bord? Parce que quand tu es au sommet, tu es plus exposé. Jésus a su, et c'est pour ça que quand il était dans les collines, il descendait rester tout autour. Et il a façonné 12 pour qu'au moins 11 d'entre eux le ressemblent. Comme ça, quand on vient vers le maître pour l'attaquer, on ne sait pas où il se trouve. Il faut donner un signe pour le distinguer. Est-ce que ça va? Lève ta main droite si ce message a été pour toi ce matin. Lève-toi sur tes deux pieds. Tu vas répéter cette prière pour moi. Tu vas répéter cette prière pour moi, Seigneur Jésus. Je vais garder le rêve que tu as placé en moi. Seigneur, de tout mon cœur, je vais garder ce rêve. Véritablement, Seigneur. Je vais accomplir les buts pour lesquels j'ai été créé. Seigneur, merci car tu utilises ma vie pour ta gloire et pour ton règne. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit donné. Merci pour ta fidélité. Élève ta main vers le...
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.